Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Goodlux Paris, l'édition de week-end. Vous le savez désormais, Goodlux, c'est tous les jours de la semaine en direct à 13h. Je vous retrouve en solo et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Emmanuel, cette semaine, on se paye une petite tranche d'Italie. En effet, une nouvelle vague de chefs transalpins débarque dans la capitale française. Et attention, il y en a pour tous les goûts. Pas un mois sans une nouvelle trattoria, pizzeria, osteria. Nous avons fait une mini sélection pour vous. Nous irons tester Darocco, Passerini ou encore Tondo. Mais d'abord, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et Emmanuel, pour ces nouveautés de la semaine, on rentre directement dans le vif du sujet puisqu'on arrive, on entre dans une table italienne.
Ça n'arrête pas. On en a sélectionné 3, on va le voir dans quelques instants. On aurait pu en sélectionner 6, 7, 8, tant depuis un mois. C'est vraiment la cuisine qui tient sa revanche parce qu'elle a longtemps été une matrice, la cuisine italienne parisienne. Puis elle était un petit peu en perte de vitesse, un petit peu kidnappée, holdupée par les Asiatiques. Elle revient fort avec notamment notre table de la semaine qui s'appelle Mamo. Alors Mamo, c'est le surnom d'un chef qui est très célèbre, sauf à Paris. Très célèbre pourquoi? Parce que c'est un chef, on va dire, Riviera. Il est d'origine italienne, mais il est français. Il a d'abord installé sa table à Antibes, puis ouvert une table à New York. Il arrive pour la première fois à Paris, rue La Pérouse, en lieu et place de ce qui s'appelait l'Etc, qui était la table annexe de Christian Lesquère. Et ce Mamo, il appartient à ce qu'on appelle les chefs grande gueule. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. C'est un chef qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup roulé sa bosse. C'est un chef qui, effectivement, cuisine un peu à la manière des dresses comme l'ami Louis à Paris. Sa table, c'est d'abord une table people. D'ailleurs, le décor, c'est toutes les photos où on le voit, lui et ses bandes.
Avec toutes les célébrités.
Avec toutes les célébrités d'Antibes à New
York. Johnny et Belmondo, au moins, non?
Bah, écoutez, vous me croirez, si vous voulez, je vous promets que je vais tester l'adresse incognito avec ma petite fille samedi dernier. Nous débarquons dans l'adresse, un samedi midi, il pleuvait sur Paris. On débarque chez Mamo, alors la grande gueule arrive, sémillant, excitant, gentil comme tout. Il prend ma fille, 14 ans, il dit « Toi, jeune fille, assieds-toi là. Tiens, prends tout de suite une part de pizza à la truffe blanche. C'est Bébel qui te l'offre. » Ma fille comprend rien, elle retourne sa chaise, elle découvre coup, Bébel. Et Belmondo lui fait.
Je vous assure qu'on ne l'a pas travaillé.
Ah, je peux prouver l'addition, j'ai même les photos parce que ma jeune fille était en train de piquer des Instagrammés. Voilà, c'est toute l'adresse, c'est l'esprit. Il y a du bon people, c'est bon esprit, c'est grande gueule, mais gentil.
Mais du coup, pas un peu snob dans l'assiette?
Pas du tout. Vous savez, c'est un peu mondain, si on veut, mais pas du tout snob. L'assiette, au contraire, comme souvent ce genre d'adresse, c'est des plats bruts de fonderie. Dans le meilleur sens du terme, on est vraiment dans la cuisine Riviera. Vous allez avoir de la belle tomate mozzarella épanouie. Ça ne chichite pas, au contraire. Et même l'idée de Mamo, ça a toujours été des plats de partage. On y reviendra avec Passerini, c'est le grand retour des plats de partage. Vous voyez débarquer en salle des bars ou des loups rôtis en pièces, avec les arêtes, avec la tête, ça débarque, ça décharge. Le poulet pour deux, c'est un poulet entier.
Ah oui.
Donc on ne sait plus à la fin c'est trop, too much ou pas assez. On peut repartir avec un de Guibaille. Non, c'est vraiment ce genre d'adresses qui ont fait la légende des tables dites people lorsqu'elles avaient du sens, de l'énergie, parce qu'elles étaient activées par des personnages sincères. Aujourd'hui, une table people, c'est d'abord du marketing. Là, on est vraiment dans cette grand genre-là. Faut aller chez Mamo,
rue La Pérouse. Il y a qui derrière Mamo?
Ben c'est Mamo, c'est Mamo, c'est Mamo, Monsieur Mamo,
c'est lui tout seul.
D'origine italienne, mais Riviera pur jus, une véritable star à New York. Son restaurant ne désemplira depuis des années. On se demande pourquoi il n'est pas arrivé à Paris avant. On rattrape le temps perdu. Allez-y, rue La Pérouse, très sympa.
Allez,
prix, un peu people.
Ah, bah, c'est forcément.
Et on a du Bébel, le allez. Magnifique.
Dans un tout autre genre, un très grand nom, là aussi à l'international, mais plutôt du côté du Japon. Et en revanche, totalement discret, c'est le chocolatier Jean-Paul Evin qui ouvre une nouvelle boutique. Il l'appelle sa cave à chocolat. Et on est dans un écrin précieux parce que vous avez de la mosaïque dorée partout sur ce bar. C'est assez étonnant. On est 231 rue Saint-Honoré, côté cour. Et il appelle, c'est ça, sa cave à chocolat. Donc côté cour, on est au fond d'une cour, immeuble du 18e siècle. Et on a toute cette histoire du chocolat avec bien sûr les nouveautés, les collections Grand Cru Machu Picchu, c'est toute une histoire, et puis bien sûr les pâtisseries d'été. Voilà, c'est toujours compliqué de parler de chocolat en plein été, et en même temps vous avez toutes ces petites douceurs qui n'ont pas besoin d'attendre les fêtes et les moments chocolatés pour en profiter.
Surtout que l'été actuellement, hein.
Ouais, c'est ça.
C'est à cache-cache.
Allez, et un nouveau boulanger, Thierry Marx?
Eh bien voilà, on avait vu pas mal de chefs ces derniers temps investir le champ de la pâtisserie. Cyril Lignac, les gâteaux tout mieux, j'en passe et quelques autres. Je crois que les chefs aujourd'hui vont se colter à la boulangerie. Le premier à jouer le jeu, c'est Thierry Marx. Il ouvre une boulangerie, 51 rue de la Borde, c'est dans le 8e arrondissement, en parallèle des champs, entre Saint-Augustin et l'Étoile. Alors Thierry Marx, il nous dit que c'est un rêve de gosse pour lui. Vous savez qu'il est né, c'est un Parisien, hein, c'est un Titi Parigo, il est né dans le 18e, il a vécu dans le 18e, et il raconte que son éveil à la gastronomie, à la gourmandise, au goût, est né d'une boulangerie qui était tout près de chez lui, et il avait cette fameuse odeur du pain. Ensuite, il aimait beaucoup l'idée de la boulangerie avec ses heures sans fin, ce monde un peu décalé, où lorsque le monde entier dort, les boulangers bossent. Ça fait longtemps qu'il a envie de faire ça.
Il a un CAP de boulanger aussi, hein, alors, Thierry Marx.
Il a un CAP de boulanger. Alors, bon, est-ce qu'aussi, il y a une part quand même, je veux dire, de nourrir l'ego, d'ego branding, comme on dit. Thierry Marx, quand vous arrivez 51 rue Laborde, c'est d'abord sa bobine que l'on trouve. Bon, donc c'est entre les deux, un peu de marketing et beaucoup de sincérité, du moins je le souhaite. Il s'associe surtout avec un vrai boulanger.
Et ça, il insiste là-dessus, parce qu'il est venu nous en parler dans Good Luxe Paris, justement cette semaine. Vous pouvez trouver le replay sur le site internet. Et il dit, c'est vraiment lui que je souhaite mettre en avant, le meilleur ouvrier de France.
Exactement, tout comme d'ailleurs Lignac, lorsqu'il s'est associé, Lignac, il savait pas être pâtisserie, mais lorsqu'il a monté sa pâtisserie, il s'est associé avec l'un des meilleurs pâtisseries du moment. Donc il y a quand même deux légitimités qui se rencontrent. Ce qui est intéressant, c'est que ils font vraiment une boulangerie de proximité, de quartier. Une bonne baguette aujourd'hui, on le dit, c'est 1,60€, pas 1,20€, 1,60€. Donc on a quand même une baguette de très haute qualité, enfin de très belle qualité, je crois qu'il y a encore quelques réglages à faire. Mais une belle baguette de qualité à des prix somme toute corrects. On travaille avec des farines de petits moulins. Et puis, bien sûr, il y a
les
fameux desserts,
des
centriches, gâteaux de voyage, qu'on appelle les desserts de boulanger. Je vous en dis pas plus, avec déjà la pâtisserie signature maison qui s'appelle la tarte maître. Je la raconte pas, il a dû la raconter.
Ah ben, il faut y aller. En fait, faut y aller tester.
Le mieux, c'est peut-être
51
d'y aller, ouais.
Rue de la Borde, dans le 8e arrondissement de Paris. Fred Pinel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler.
C'est
Fred
vrai.
Pinel,
est-ce
le malotier.
Est-ce qu'on parlait de la malle?
Exact.
Que j'imagine.
Alors, Fred Pinel, donc créateur de Pinel & Pinel, maletier, il s'invite dans le monde de l'art. Il est présenté au Palais de Tokyo, une sorte de performance, de voyage immobile avec l'artiste Om Nguyen. Ils ont présenté 3 valises, des malles immenses habillées de cuir blanc, sur lesquelles sont dessinés donc des visages tracés à la main par Om Nguyen. Donc la valise, à chaque fois, c'est 16 heures de travail. C'est 3 pièces uniques, hein. Ce sont véritablement des œuvres d'art. 15 jours pour faire le portrait pour l'artiste. Elles ont été présentées au Palais de Tokyo. Après, on peut les acheter, bien entendu, ces œuvres d'art. Il faut prendre rendez-vous pour aller dans son showroom. Elles sont pas exposées dans sa boutique de la rue Royale. Mais parce que c'est immense en plus, hein, c'est 1m40 sur 1m80. Et c'est vraiment le début d'une histoire de Fred Pinel avec les artistes. Il y aura un deuxième volet en septembre. On ne connaît pas encore le nom de l'artiste avec lequel il va collaborer. Mais c'est vraiment le retour de Fred Pinel sur le devant de la scène.
Exactement, d'autant que c'était pas l'événement, l'actualité, mais il sort à nouveau des malles à thème. Il y en a une que je garde par derrière les fagots, car d'ici quelques semaines, je vous en parlerai. Elle est encore superbe, on ne l'attendait pas. Mais bon, c'était pas le propos. Maintenant, il fait de la valise happening, de la valise arty. Rendez-vous où ça, au Palais de Tokyo, ça
Non, on peut plus l'avoir au Palais de Tokyo. Elle était juste une journée. Maintenant,
oh bah,
il faut aller
rendez-vous
la voir.
À la rentrée.
Voilà, vous allez rue Royale et vous demandez à la voir dans son showroom.
Vous allez sur son site internet.
Et ben
puisque
voilà.
Lady Geek est absente cette semaine, elle nous en
oui,
parlera.
Oui, on la salue Sandy Pronois. Vous avez raison, Emmanuel, qui pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais évidemment, vous la retrouverez la semaine prochaine. Je voudrais juste terminer avec l'objet de la semaine, des assiettes Christian Lacroix, collection édition 5 ans de Christian Lacroix Maison. Donc c'est bien. Christian Lacroix Maison, donc ça n'a plus rien à voir, vous savez, ça a été revendu avec le créateur. Mais ils ont une jolie capsule d'objets collecteurs qui reprennent le dessin Bagatelle. On est vraiment l'urbaniste contemporain et les folies du 18e siècle. Donc tout ça a été mis sur une paire de coussins, mais aussi carnet de notes, coque d'iPhone, etc. Et surtout de superbes assiettes. C'est un côté délicieusement kitsch, mais ma foi, ça va pas
moi,
dans tous
bien.
Les intérieurs. Mais pourquoi pas, voilà, une petite assiette de présentation.
Pour une fois que je suis pas ronchon.
Ouais, c'est vrai, ça. Enfin, tout ça nous amène à l'Italie. Vous nous avez alléché avec Mamo. Alors, ça y est, on va s'attabler avec les Transalpins. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe aux accents transalpins cette semaine. Emmanuel, on a commencé l'émission comme ça avec encore, si j'ose dire, une nouvelle adresse italienne à Paris. C'était donc le...
C'était Mamou.
C'était Mamou.
C'est une adresse Azuréo Riviera. Hein.
Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, ça donne le ton. Et c'est vrai que depuis quelques temps, nos amis italiens qui sont déjà plus ou moins installés dans la capitale ou qui arrivent ne cessent de faire un petit mercato et de nous faire redécouvrir la cuisine italienne. Autour de cette table, Simone Tondo, bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle tout simplement Tondo et je donne tout de suite l'adresse. C'est 29 rue de Côte dans le 12e arrondissement. Giovanni Passerini, bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle
bonjour.
Tout simplement Passerini. On n'est jamais mieux servi de quoi soi-même. 65 rue de Traversière. Alexandre Dusbert, bonjour.
Bonjour.
Copropriétaire du restaurant Darocco, 6 rue Vivienne dans le 2e. C'est la grande sœur, le grand frère de Rocco, Rocca et Rococo et ses frères.
C'est ça.
C'est ça. On y reviendra dans un instant. Emmanuel, comment ça se fait là depuis que tous les mois vous nous annoncez une nouvelle race italienne ?
Alors, je vais leur poser la question, je vais essayer de ne pas parler trop durant cette émission.
Non, c'est pas possible. Simplement,
c'est vrai que je pense qu'il y a toujours eu des affinités électives entre les Français et l'Italie, et notamment les Français avec leur amour pour la cuisine italienne. Simplement, pendant longtemps, il y a eu un malentendu. Ça vient de la faute des Français sûrement, qui pour eux, l'Italie se résumait à la pasta et à la pizza. Et puis aussi un petit peu à la faute peut-être de certains Italiens dont on sait quand ils sont installés à Paris pour ouvrir leur première pizzeria ou leur premier resto, c'est pas toujours des chefs, c'est souvent des Napolitains pas bien dégrossis, sympathiques comme tout, mais du coup il y a eu un malentendu avec la cuisine italienne qui est une vraie cuisine de région, une vraie cuisine de produits et justement qui est beaucoup plus, et qui est un peu formatée comme la France, beaucoup plus complexe, ils vont bien le croire. Et aujourd'hui, depuis quelques saisons et notamment avec les chefs Passerini Tondo qui débarque, on découvre une cuisine italienne qui est beau, qui ne s'enferme pas dans la pasta ou dans la pizza, une cuisine italienne qui est une cuisine des régions, et puis surtout à la manière de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la génération qu'on peut appeler foodie, mais en tout cas la cuisine mondialiste avec les chefs. Il y a aujourd'hui aussi des grands chefs en Italie, c'est-à-dire qu'ils sont profondément italiens dans leur identité, dans leur culture, dans leur goût, mais ils ont aussi leur personnalité, leur singularité. On le savait en Italie, on les découvre désormais à Paris. C'est ce qu'on va voir avec Tondo et Passerini, qui, non content d'être des vrais Italiens, d'être matricés comme des Italiens, ont aussi leur singularité, ce qu'on appelle des chefs auteurs, ce qui un peu vont nous raconter. Et puis ça amuse chacun aussi à décliner et à revisiter les grands genres qui font la cuisine italienne de restaurant. Chez nous, on a le bistrot, on a le machon, on a le bouchon, on a la brasserie. Chez eux, ils ont l'osteria, ils ont la trattoria,
la
ils ont plein de gens, ils ont la pizzeria. Et chacun à leur manière la raconte différemment. Tu as fallu bien un, ce sera pas Serini le premier qui racontera et qui me dira si ou non j'ai raison ou peut-être complètement tort.
Non, vous avez tout à fait raison. Et déjà, c'est très bien de, quand vous définissez la cuisine italienne, de parler de cuisine régionale. Parce qu'en fait, moi, je dis tout le temps la même phrase, c'est-à-dire que la cuisine italienne, en soi, ça n'existe pas, ou ça existe qu'à l'étranger. C'est une cuisine vraiment régionale. Et c'est pour ça que quand j'ai ouvert cet restaurant, j'ai voulu que le côté italien, c'était plus présent dans la structure de la carte même. Il y a des plats italiens, évidemment. Je m'amuse à faire des plats romains. Je suis originaire des Roms. Mais c'est que c'est très amusant, c'est de reproduire un restaurant qui a une structure de carte vraiment très italien. Et l'unique chose que peut-être, encore une fois, on doit un tout petit peu faire comprendre au public français, c'est que les pâtes, c'est pas un plat. Et donc, c'est un entremets.
Exactement, on va rappeler aussi tout un tas de codes, parce que la cuisine française a été très codifiée. On oublie qu'il y a peu de cuisines qui, dans le monde, sont codifiées. La cuisine chinoise l'est, c'est par exemple la cuisine mandarinale, la cuisine japonaise, la cuisine italienne aussi. Et le plat, parlons des pâtes, parce que chez eux, ils ne la mangent pas du tout comme nous. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de restaurateurs italiens aujourd'hui qui, sans imposer, proposent que l'on déjeune et que l'on dîne à la manière d'Italien et qu'on les déguste les pâtes à la façon d'Italien, c'est-à-dire dans un temps bien précis, dans un moment bien précis. Ouais. Alors c'est quoi la pâte? À quel moment elle doit intervenir?
Normalement, c'est un entremets, en fait. Et c'est curieux la relation que nous, les chefs, on a, et nous, chefs italiens, surtout à l'étranger, on a avec les pâtes, parce que c'est à la fois, on risque de tomber dans un cliché, mais à la fois, c'est tout ce qu'on aime. À la maison, on s'est fait ça. Donc, du coup, c'est toujours difficile de trouver un bon équilibre. Et pour moi, je l'ai trouvé en plaçant les pâtes au bon endroit du menu. C'est-à-dire que,
est-ce qu'on peut refaire le menu? Parce que souvent, effectivement, quand on voit ça en plus en Italie, du coup, on s'y met. Comment on va faire pour manger tout ça? C'est vraiment ça, on se retrouve un petit peu naïvement dessus. Donc on commence par quoi?
On commence par des petites, nous on l'appelait à la française hors d'œuvre.
Mais c'est
des des sortes d'antipasti, des trucs vraiment hyper basiques. Nous, on a des souplis qui sont des petites arancini à la romaine. C'est des boulettes de riz cuits avec des travers de porc et de la tomate qui sont compactées et puis frites avec de la mozzarella à l'intérieur. On a un petit feu de bois où on fait cuire des gros crevettes d'Italie. On a des coques marinières fumées, on a de la charcuterie. Donc ça, c'est pour les tables qui ne sont pas complets. Peut-être
patiente.
Voilà, ouais, patiente avec un petit truc.
Chez nous, ce qui était le hors-d'œuvre ou, voilà. Ou la muse-bouche.
Ou la
voilà. Et puis il y a des entrées où peut-être je m'amuse encore un peu à faire une cuisine plus rinienne, un peu plus moderne peut-être, ou un peu plus twistée. Et puis on a des pâtes qui viennent à ce moment du menu, qui sont en quantité importante, mais pas peut-être suffisante pour être un plat, parce que j'ai pas envie non plus de remplir les gens des féculents, parce que c'est pas bien non plus. Et puis on a une des caractéristiques principales du restaurant, on a toute une petite carte de plats à partager.
Ça, on va y revenir.
Ouais.
Mais donc, antipasti, on peut les becter comme ça entre amis ou en attendant. On ose le plat de pâtes qui est bien mesuré en vérité, à l'italienne. Puis après, on va à un plat plus conséquent, ça peut être carne ou ça peut être pece. Et puis là, on va parler des plats à partager. Ouais.
Ça, c'est
les débuts de chez Passiani. Maintenant, on passe chez Tondo.
Les sardes. Vous êtes sardes. Est-ce qu'on retrouve quand même cette structure là ou est-ce que c'est encore différent?
Dans le nouvel carte qu'on fait au restaurant, il y a très peu de choses italiennes. Il faut le dire. Moi, peut-être ici, je suis l'unique qui fait vraiment pas une cuisine italienne.
Ouais. C'est pour ça que je parlais de cuisiniers auteurs, c'est-à-dire qu'ils ont une culture italienne, mais aujourd'hui, et c'est pas nouveau, mais on le découvre en France, à la manière des Français ou des chefs. Aujourd'hui, la cuisine italienne, parce qu'ils ont une culture qui peut être sarde italienne, oui. Ils ont aussi une signature. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va découvrir chez Tondo.
Moi, il a des touches qui viennent de mes racines, dans les passages où on a travaillé ensemble déjà avec Joe. J'ai commencé à manger en Italie. Donc, dans l'ABC de ma cuisine, il a sûrement des notes de cuisine italienne. Après, ça peut arriver de passer à des ingrédients japonais. La base, elle est française. La base de ma cuisine, elle est plus française qu'italienne.
Alors, où sont les accents italiens?
Mais la touche, elle est sûrement italienne. Dans le sens où on n'assaisonne pas comme les Français. Il y a toujours de l'acidité, il y a toujours beaucoup de sel. Quand je dis beaucoup, équilibré, mais beaucoup dans le sens qu'on tape sur l'anchois.
C'est marqué en saveur.
On a quand même des goûts plus marqués que la cuisine française, qui est une cuisine avec des goûts beaucoup plus mélangés. Les mijotés, les longs cuissons, les gras, la crème, le beurre, que j'adore. Mais qu'on a intégré en cuisine italienne. Moi, le beurre, avant de travailler avec Giovanni, j'ai utilisé dans les palaces, ou dans les restos avec la toque. Quand je suis arrivé ici, j'ai compris qu'on pouvait mélanger du beurre avec de l'huile d'olive.
Ah ouais.
Donc, ce qu'on mange chez moi, c'est des amuse-bouches comme dans un restaurant gastronomique, mais qui sont italiens un peu. Mm-hmm. Donc, il y a une frite, une tempura, pas une frite, mais tempura, une focaccia pour démarrer, une mortadelle aux truffes. Ça, c'est pour démarrer le repas. Et après, on travaille des bons produits.
Et de la même manière, vous venez de le dire, vous êtes quand même un sarde.
Oui.
Et la cuisine sarde, on commence à la découvrir en France, soit parce que les Français ont commencé à aller en Sardaigne, et puis quelques chefs, quelques maisons commencent à dire non, il y a une cuisine typiquement sarde. Oui. Qu'est-ce que vous a apporté, et qu'est-ce que tu sais avec la cuisine sarde, et comment elle vient s'infuser dans votre inspiration?
Que j'ai toujours eu la tendance à mélanger viande et poisson. Là, moins, parce que j'ai quand même des dangers plus grands. Et donc je dois faire gaffe à faire
une fois que les fidèles seront revenus.
Pas plus ennuyant, mais plus équilibré probablement. Que je ne faisais pas au Roosevelt.
J'avais envie de faire autre chose.
Donc dans la vie, on passe à des autres chapitres. Donc je pense que l'île, la Sardaigne, pour tout le monde, c'est un endroit où tu manges du poisson. Non. Le poisson, dans tout le monde, il arrive avec l'argent. Parce que pour pêcher, tu avais besoin d'avoir des bateaux quand même, de te déplacer. On pêche pas tout le poisson avec la canne, il faut aussi faire de la plongée. Donc, nous, on sait très bien faire la viande. L'agneau, les cochons de lait, ça, c'est des choses que les sardes font d'habitude, le vrai. Et sous les côtes, la consommation de poisson, il arrivait avec l'argent, le tourisme, tout ça. Donc, je pense que ma cuisine, là, c'est mélange.
Alors, on va passer quand même chez Darocco, parce que, effectivement, alors là, on est encore sur une autre cuisine italienne. On retrouve les antipasti,
ouais. On
retrouve les pâtes.
Voilà.
Et la
le
pizza.
Menu italien, ouais. Alors, en fait, bon, c'est vrai que je sais pas si je peux parler de cuisine italienne ici.
Si, justement,
c'est intéressant.
C'est intéressant parce que pourquoi on vous a invité? Parce que dans le même temps, on voit bien que l'Italie cette idée de la cuisine italienne, qui est souvent une cuisine très proche du produit, qui va directement au produit, comme vous le disiez, des assaisonnements qui vont vite, efficaces, il y a un grand respect du produit, peut-être un peu moins, elle est dense dans la saveur, marquée dans la saveur, mais qui va moins s'exprimer par tous les champs, comme les Français, où des fois les plats partent dans tous les sens.
Les Italiens sont passionnés de produits encore plus que les Français.
Alors pourquoi des restaurateurs comme vous, à Paris, qui avait plusieurs adresses, utiliser, travailler cette matrice italienne. Pourquoi elle marche si bien à Paris? Est-ce que c'est le public qui est fou d'Italie? Et pourquoi vous pourriez faire un restaurant français? Dites non, on va travailler avec cette matrice italienne. On pourrait citer Loulou qui vient d'ouvrir, qui est un restaurant orchestré par des restaurateurs français, mais sous influence italienne. Il y en a plein comme ça.
Allez, pourquoi Alexandre, vous avez choisi ça?
Ah, je sais plus du coup, mais.
J'ai
un restaurant italien, un restaurant français, j'adore ça, hein, j'adore la cuisine française. Je pense que sur la cuisine aujourd'hui, cuisine française ou italienne, le Roca, donc notre premier resto, c'est une cuisine française, mais même pas tant que ça. On utilise des produits français, on utilise des produits autour de chez nous, mais la cuisine aujourd'hui est quand même assez mondialisée. Les techniques sont assez mondialisées, et une cuisine typique française, finalement, ça va plus intéresser grand monde. Et la cuisine italienne, c'est surtout des produits en fait, c'est qu'on va utiliser des produits italiens. C'est comme ça qu'on va reconnaître la cuisine. Donc nous, on a une petite cuisine assez simple, avec peu de choses, mais on utilise des bons produits italiens. Et à côté, ce que les Français adorent, c'est les pâtes et les pizzas. Vous avez...
Mais alors qu'est-ce que fait... Par exemple, on va faire une petite pause en fait. Comme ça, on a le temps de regarder sur le menu avec vous ce qu'on va se choisir comme pâte et comme pizza. On se fait une petite pause sur BFM Business.
Déjà
de... Déjà, le temps de se mettre l'eau à la bouche. Et puis on a
eu des antipastis, on a eu de la pasta, ça va vite. On va passer à la viande et au poisson tout de suite après la pause.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et l'Italie s'invite dans votre assiette aujourd'hui dans Boudelux Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Simone Tando, chef de Tondo, de Giovanni Passerini, chef de Passerini, et Alexandre Gisbert, copropriétaire du restaurant Darocco. On a fait une petite pause, juste avant la petite pause. Alexandre, on voyait avec vous chez Darocco que les grandes spécialités, c'était les pâtes et les pizzas, mais pas n'importe quelle pâte, pas n'importe quelle pizza. Comment on fait pour faire une bonne pizza et une bonne pâte?
Est-ce qu'on appelle déjà des chefs italiens?
Comment?
Est-ce qu'on appelle déjà des chefs italiens pour pouvoir orchestrer la pâte et la pizza?
Il faut des chefs italiens, ouais. C'est eux qui maîtrisent le mieux. Maintenant, le goût, nous on le connaît,
Est-ce que les chefs italiens estiment que les clients français apprécient à leur juste valeur? Est-ce qu'on a les mêmes goûts?
Que les Italiens?
Ouais.
Les Français ont un énorme goût pour la pizza, particulièrement, et la cuisine italienne en général. Les Français adorent le resto. Nous, ce qu'on a fait, c'est un resto, en fait.
On n'a pas parlé du décor. Ouais. Vous avez récupéré...
C'est avant tout ça. C'est-à-dire que là, en face de grands chefs italiens, c'est un peu compliqué.
Mais non, c'est pas compliqué. Non. C'est ça qui est intéressant. Non, pourquoi, encore une fois, vous utilisez l'Italie. Il y a pas... Au contraire, si cette Italie est si puissante, si elle plaît aux Français, au goût français, au goût des Parisiens, et pas seulement, et que quand on fait un restaurant, on reparlera du décor, on utilise cette idée de la cuisine italienne, on n'a pas besoin... Est-ce que vous avez fait appel à les chefs italiens? Vous l'avez dit, aujourd'hui, produits sont très importants, comment vous les avez sourcés. Et puis cette idée de la pizza qui est une vraie, j'allais dire, un totem de la cuisine italienne, comment on essaye aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un gros progrès sur la pizza depuis une quinzaine d'années à Paris, comment vous êtes dit, on va être quand même à la hauteur minimale pour effectivement, dans ce restaurant qui est un restaurant d'ambiance, servir comme aujourd'hui une pizza, si ce n'est chic, du moins de qualité.
Moi, ça fait quand même quelques années que je fais des pizzas. Hein. J'ai commencé en 2009 avec une petite adresse qui s'appelait Green Pizza.
Green Pizza, ouais.
Voilà. Ensuite, on a fait Rocco. C'est venu un peu au fur et à mesure. Donc, c'est un peu, voilà. Moi, j'ai le goût de la pizza depuis ma petite enfance. Je mangeais dans un petit resto qui s'appelle Da Pietro, rue Mabillon, dans le 6e. Quasiment toutes les semaines avec mon père pendant des années. Et comme beaucoup de Français, j'adore ça. Donc le truc est venu un peu au fur et à mesure. Je connais pas mal la cuisine française. J'ai une bonne connaissance de la restauration en général. Et donc le truc est venu un peu au fur et à mesure de vouloir faire un resto italien. Ce resto en tout cas, pour plusieurs raisons. Parce qu'on avait le Rocco, la pizza ça cartonne. Parce qu'on adore la restauration et parce qu'on a eu l'occasion de récupérer ce lieu, donc 6 rue Vivienne, qui est un lieu absolument magnifique.
On raconte donc, historiquement qui était la boutique de Jean-Paul Gaultier.
La boutique Jean-Paul Gaultier, donc c'est très grand, c'est 450 mètres carrés.
C'est hyper haut.
Ça fait 6 mètres de hauteur sous plafond. On était avec un architecte qui nous a fait tous les travaux un jeune qui a mon âge, qui est absolument génial.
C'est réussi, très réussi.
C'est très réussi. C'était un pari, hein, puisqu'il n'avait rien fait avant. Il avait fait deux, trois petits trucs. Il avait bossé un peu sur le Barbès, qui est une belle réussite aussi.
Barbès, voilà, ouais. Il y a un an et demi, ouais.
Mais c'est pas lui qui le gérait. Là, il a vraiment géré l'ensemble du projet. Et donc, on a fait un lieu. C'est un ensemble, en fait. Donc, vous avez la pizza, vous avez de la musique, vous avez une bonne ambiance, vous avez une belle clientèle, et on fait, voilà, donc une cuisine italienne avec des pâtes, des pizzas, quelques petits desserts, antipasti.
Mais je crois que c'est intéressant. Supakitch, hein, c'est ça.
Alors, Supakitch, c'est pas lui, hein, qui a fait le lieu. Donc, Supakitch, c'est un artiste.
Ouais, qui a travaillé aussi sur le lieu.
Qui a travaillé, qui nous a fait toute la partie graphisme, donc le logo, la carte, et puis quelques éléments graphiques, un papier peint, etc. dans le lieu.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a aussi cette idée du restaurant italien, avec un certain décor. Là, ce que vous racontez, on est dans complètement autre chose. Chez vous, messieurs aussi, on est dans des lieux totalement contemporains et complètement extrait, ce pourrait être une autre cuisine, et peut-être que la cuisine italienne a su aussi s'extraire des codes du restaurant et des clichés du restaurant italien, Giovanni.
Bah, parce que je pense qu'il y a des autres acteurs qui sont venus dans le marché, en fait. Je pense que c'est ça l'effet qui a changé un peu tout. Et je trouve que l'effet que c'est assez beau, c'est de voir des acteurs français faire une très belle restauration italienne avec cette côté français très carré qui est peut-être des anciennes générations de restaurateurs italiens n'ont pas fait. Ils ont du coup ont perdu une partie de marché, mais c'est quelque part c'est mérité parce que effectivement la cuisine italienne là commence à avoir une nouvelle. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que il y a une immigration, comme une petite nouvelle vague d'immigration, sauf que cette fois c'est une immigration bourgeoise, c'est plus les migrants italiens qui partaient à travailler dans les mines
les
ou
années
voilà.
50,
voilà.
Tout à fait.
Et donc du coup c'est des étudiants, des gens qui sont en bagage culturel, qui viennent d'un milieu plus bourgeois, qui peut-être ils amènent avec eux des connaissances de cuisine, peut-être qui sont travaillés dans des restaurants un peu plus haut de gamme, qui se disent voilà on amène une certaine virtuosité dans la cuisine italienne et ça a vachement changé la scène.
Et c'est vrai que si on s'observe, c'est que vous êtes témoin de cela, et alors actuellement depuis ce printemps, c'est vrai qu'il y a une rafale d'adresses, c'est la jeune génération des chefs italiens qui, comme vous le dites, elle aussi a évolué en voyageant à travers le monde, en était formée, et ça rejoint aux cuisines diverses et variées. Il y a des fusions, aujourd'hui on voit que les chefs japonais peuvent travailler le français, les français sont omnubilés par la cuisine thaïlandaise, les italiens peuvent garder leur identité et créer des plats d'inspiration française et vice versa. Et c'est tout ce que et c'est vrai que ça casse complètement les codes. C'est-à-dire tous ces décors de trattoria plus ou moins avec des fonds de Vésuve ou de Pompéi, c'est fini.
Vous avez justement aujourd'hui ça, il y a des restaurateurs en fait parisiens, français ou italiens, qui maîtrisent parfaitement cette cuisine italienne, mais qui maîtrisent aussi les codes un peu de la restauration actuelle moderne parisienne.
Ce qu'ont fait les Cohen avec les cailloux, avec la
voilà.
Qui ont commencé à réunir finalement.
Manger une bonne pizza, mais sans gondole, quoi.
C'est-à-dire exactement les codes de la néo-brasserie parisienne avec un décor très pointu, très choisi. Cette énergie de la brasserie parisienne, mais par contre, une autre énergie qui est celle de la cuisine italienne qui peut-être était plus présente à mon sens que ce que pouvait être une choucroute en 2016 ou des plats de gueule qui étaient dépassés. Donc la cuisine italienne avec cette énergie qui correspondait bien au nouveau look des brasseries contemporaines parisiennes. Et ça, c'est les restaurateurs français qui ont utilisé le genre. Et les Italiens, dans le même temps, ont sorti un petit peu des codes esthétiques pour faire une cuisine beaucoup
Alors,
plus d'auteur.
Le décor, l'assiette, j'aimerais qu'on parle un peu des vins. Simone Tondo, est-ce que, parce que vous avez là aussi un vrai savoir-faire ouais. En Italie, comment vous gérez-vous? Est-ce que vous dites, comme vous dites tout à l'heure, j'ai gardé un petit peu derrière, mais finalement pas plus que ça. Est-ce que vous jouez le jeu? Comment vous le jouez avec les vins italiens?
Moi, je suis...
Vous êtes français, c'est ça que vous avez envie de nous dire? Ou vous êtes international?
Franchement, je pense qu'il y a plus d'Italiens que moi. C'est vrai, parce que ce qu'il disait Giovanni, je pense depuis un bon moment, parce que nous on n'est pas capable de faire ce qu'ils sont capables de faire eux. Dans le sens que nous, moi je serais pas capable d'ouvrir Rococo, d'ouvrir, on fait une citation pour la concurrence, mais It's Mama.
Ouais.
Moi quand je vois des affaires comme ça, je dis, il y a une difficulté derrière à retrouver les staffs, à faire.
Ils font 1000,
je sais pas.
C'est
imaginé,
on l'a dit.
Hein.
550
par jour, j'imagine, avec ça. Nous, ouais, pas loin, 400 pour l'instant, mais ouais. On
psychologiquement, va... moi, c'est un truc qui est.
C'est 35 personnes.
C'est pas l'océan. La même chose, c'est deux offres différentes. Mais.
Ouais,
vous
mais ils ont gardé la qualité en faisant beaucoup nombre de couverts, que c'est pas forcément facile. Pour être en Italie, on le faisait dans les années 50. Mais nous, la jeunesse, on a tendance à réduire.
Oui, vous, c'est d'adresse plus de poche. Vous êtes rue de Côte.
Vous êtes combien de plus gastronomique aussi.
Moi, j'ai récupéré un resto qui date de 1930. J'ai pas un restaurant contemporain, déjà.
Non, le lieu.
C'est très contemporain, vieux resto.
Le décor.
Oui, il est contemporain dans la mode, mais il est pas contemporain dans la beauté.
Ah, dans l'histoire. Il a une gueule. En revanche, il y a quand même une prétention, dans le bon sens du mot prétention, de cuisine gastronomique, de cuisine d'auteur, de cuisine de singularité.
Moi, j'avais une petite jolie baraque dans le 20e. Donc, la suite naturelle, c'était de prendre un vrai restaurant.
Ben là, vous êtes placé. Vous avez fait vos marques dans une taille de poche.
La taille de la cuisine, vous êtes passé de la taille sur toilette à la taille salle de bain.
C'était la taille de la cuisine et de la toilette du tondeau.
Ouais. Votre première adresse, effectivement, qui était le Roosevelt, au bout de Paris, c'était vraiment table de poche. Ouais. Qui était Rino aussi, votre première adresse à Paris. Ouais. Et table de poche, oui,
c'est un petit peu des laboratoires. Succès à chaque
aujourd'hui,
fois.
Vous montez en puissance. Ouais. Vu passer Rini, aujourd'hui, on a quand même le sentiment que votre adresse, c'est pourrait être ce qu'on appellerait une néo-trattoria. On parle beaucoup de bistronomie à Paris. Est-ce qu'il y a une vraie néo-trattoria, c'est-à-dire toute l'énergie de la trattoria, le coude à coude, l'ambiance, mais une cuisine qui est sévèrement montée en gamme?
Absolument. Moi, je sentais un peu cette responsabilité de peut-être revaloriser cette façon de faire restauration. À 40 ans, je me suis bien amusé à faire une cuisine plus moderne, plus sur le menu fixe. Et là, c'est le moment peut-être de faire autre chose. Et on a eu la chance de trouver cet lieu, cet local qui est absolument magnifique d'angle, où on respire enfin, surtout après les 4 ans de Rino, on était tout assez, où on peut effectivement retrouver cette confort, une taille de table qui ressemble plus à celle de notre atelier, une carte qui ressemble plus à celle de notre atelier, et une ambiance qui fait qu'on a vraiment la tendance à bien s'installer et à redonner à la nourriture les corrects endroits pendant un repas, en fait.
Justement, on arrive à la fin. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table, chacun, de ce qu'on trouve en ce moment? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
À table? Ce soir?
Ce soir, là.
Ça dépend. Si j'arrive à l'heure, à la mise en place...
C'est pas possible. Je suis en retard. Les Italiens, ils savent cuisiner en 5 minutes avec deux ingrédients.
C'est vrai. Ça, on l'a.
Ça, les Français, ils savent pas.
Ce soir, qu'est-ce que je dirais, bon, le pigeon. Moi, j'aime ça.
Un petit pigeon? Comment?
Un pigeon avec des cerises marinées au vinaigre. Et la garniture, c'est des courgettes, de l'albenga, avec danette, des petits pois, un peu de beurre parce que c'est jamais mal. Et purée vert aux épinards, l'ail.
On aurait peut-être dû commencer par ça. Mmh. Allez, c'est l'occasion de parler des fameux plats de partage.
Voilà, nous on a plusieurs plats à partager. Deux, trois ou quatre personnes. On a une canette semi-sauvage, rôtie entière, pour deux ou trois, ça dépend des appétits. Et un plat qui, en ce moment, il a beaucoup de succès. On fait l'homard en deux services. Le premier service, c'est là, on les montre en salle, on les tue à la minute. Et on cuit la queue avec une petite pan sanelle, c'est du pain à la tomate avec une tombée de daroche. Et avec le corail, avec les pinces et avec le jus, on lance un bisque à la minute. Et avec ça, on fait des spaghettis.
Et là, c'est pour 4.
Là, normalement, c'est pour 2. Mais on a ainsi des gros pour 4 parfois.
Il y a un poisson aussi pour.
On a des turbos. On a des turbos entiers pour 4 ou 6. Voilà, on a une petite.
Allez, on termine par la repos. Laisse votre
pizza. Beaucoup plus simple. Pizza. Moi, sinon, c'est les pâtes. Ma nouvelle passion, c'est un peu les pâtes. Qu'on fabrique le matin, qui est une énorme machine. En ce moment, on fait une bucatini. Donc, des espèces de spaghettis qui sont creux. Donc, le jus rentre dedans. Et au palourde. Donc, un jus de palourde. Un peu à la française, genre marinière, et dans lequel on met énormément de poutargue. Ça, c'est très bon. Faut mettre la poutargue. La poutargue,
c'est un de mets séchés.
C'est ça. Waouh! Eh ben, ça nous donne faim, tout ça. Donc, on rappelle les adresses pour les pâtes poutargue bongolais. Je vais pas me tromper. 6 rue Vivienne, dans le 2e arrondissement. Ça s'appelle Darocco, Alexandre Gisbert. Merci.
Je vais te rappeler parce qu'il y a de la queue.
Vous, Giovanni Passerini, 65 rue Traversière. Oh. Donc, pour le petit homard en deux temps. Merci beaucoup.
Là, vous appelez aussi parce qu'il y a de la queue. Il y a en plus une petite épicerie à côté pour emporter chez soi les raviolis, les meilleurs de Paris du moment.
Et pour le pigeon, chez Tondo, c'est 29 rue de Côte dans le 12e arrondissement.
Eh oui.
Merci beaucoup à vous. Simone. Tondo, comment on dit déjà bon appétit en italien?
Bon appétito.
Bon appétito. Grazie mille. Allez, nous on continue.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, c'est l'heure de l'agenda. Mais d'abord, je voulais continuer un petit peu sur la note gastronomique, enfin gastronomique ou en tout cas alimentaire, avec le livre de la semaine, Emmanuel. Ça s'appelle Dégoût, non pas Dégoût de luxe, mais Dégoût tout court. Martine Parr, le photographe.
Et Dégoût tout court, mais en deux mots. Hein.
Ah, bien
pour
sûr.
Ceux qui nous écoutent à la radio, c'est Dégoût.
Et en même temps, ce petit bouquin chez Feuilleton, on peut se poser la question. Parce que, évidemment, vous connaissez ce photographe anglais absolument incroyable. Là, c'est 200 photos, c'est 25 ans hein, de photos autour de l'alimentaire. J'ai presque envie de dire autour de la bouffe. Pardonnez-moi pour ce mot-là. Mais parce qu'on a parfois, comme sait le faire Martine Parr, ce qu'il y a de plus glauque et de plus trash. En fait, si vous souhaitez faire un régime, vous compulsez cet ouvrage et vous avez... Regardez, Emmanuel. Et en même temps, c'est génial. On aurait envie de connaître, parce que c'est un petit peu une sociologie de l'alimentaire, de cette junk food. On passe bien sûr par les beignets, les frites, les sauces, les burgers et autres saucisses. Il y a des choses qui sont un peu coquine parfois, comme il sait les faire décaler. On aimerait un petit peu avoir l'image de chacune. On s'imagine l'histoire derrière, parce que ce sont des détails, en fait. Derrière chaque détail de cet alimentaire, bien sûr, ça se passe beaucoup chez les anglo-saxons. Je suis pas sûre que chez nous, ce soit mieux, de temps en temps, mais entre le cornet de bœuf, les pop-corn, la viande grillée,
C'est d'abord un Martine Parr, un grand photographe,
hein, évidemment.
Énorme coloriste, très connu pour ses scènes mondaines, lorsqu'il vient capter les garden parties et autres. Et là, c'est vrai qu'il joue à la fois sur le titre « Dégoût » en deux mots, mais phonétiquement, on entend « Dégoût ». Et c'est vrai qu'il s'amuse d'une des grandes tendances de la bouffe de l'époque, qui est celle de la junk food, de la street food, à la fois qui est une bouffe qui, finalement, jusqu'ici, avait mauvaise presse, et qui peut l'avoir encore parfois, mais en même temps, elle est, vous le disiez tout à l'heure, délicieusement, je crois, kitsch. Là, c'est à la fois elle est réjouissante, à la fois elle est addictive, et à la fois elle dégoûte un peu. Mais ça participe aussi de cela, la gastronomie. On ne peut pas avoir du bon goût sans dégoût. Et peut-être un jour, d'ailleurs, on serait bien inspiré de faire une émission dégoût de luxe, parce qu'on ne peut pas avoir de bel avis, de bonnes critiques, si on n'a pas de mauvaises critiques. Mais c'est un livre qui est déroutant, mais c'est d'abord un livre d'un très grand photographe. S'il y a au moins un luxe, c'est celui de Martine Parr.
Voilà. Ah, j'ai aperçu un légume, je pense que ça doit être le seul, à peu près, des 200
photos. Oui, c'est à peu près le seul acceptable.
Du bouquin, parce que sinon, évidemment, on a du gras, du sucre, et du sucre, et du gras. Mais
vous allez voir, puisqu'on burgerise aujourd'hui gourmet, puisque les kebabs sont chics, puisque les pizzas sont snobs, là, vous allez voir ce que vraiment une pizza, vraiment un burger, et vraiment un croque-monsieur.
Et c'est aux superbes éditions. Feuilleton. Allez, on va un petit peu sortir de cet univers avec un peu plus de chic et de style, c'est l'acro-parfum. La chronique parfum.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Lionel Paillez, bonjour.
Bonjour.
Notre diffuseur de bien-être. Alors, vous êtes revenu de Grasse, vous étiez avec nous il y a un peu pour nous parler de Grasse. Et alors, vous revenez avec votre top 50 du parfum.
Oui, les
mensuels.
Les cinq nouveautés que j'ai retenues. Ouais. Retenues ou pas retenues, parce qu'on finira quand même par les mauvais points. La première, c'est une maison qu'on avait un peu oubliée, qui s'appelle Azzaro.
Ah oui.
Qui sort un masculin qui est particulièrement réussi, qui s'appelle Wanted. Alors, comment une vieille maison, je crois que plus personne ne se souvient de qui est Loris Azzaro aujourd'hui, comment une vieille maison comme ça peut réécrire son histoire et sortir un vrai parfum masculin, mainstream et pas cliché en même temps. Donc c'est vraiment une pure réussite. Alors je vais vous parler un peu odeur quand même. Wanted, l'idée c'est de mélanger du chaud et du froid. Donc c'est des facettes boisées chaudes et des épices fraîches comme la cardamome par exemple. C'est extrêmement réussi. Donc c'est un parfum très hyper masculin et sévèrement burné comme on dit, et en même temps très élégant. C'est le parfait équilibre du masculin.
Et ça ressemble à quoi le flacon ?
Alors le
on
flacon.
On dirait un barillet.
Alors voilà, ils ont eu quelques soucis compte tenu du contexte. Donc eux jouent plutôt sur le fait que c'est peut-être une roulette de casino,
d'accord,
peut-être un piston,
un
moteur de voiture. Ouais. En tout cas, voilà, l'idée c'est de montrer une belle mécanique.
Ouais. Et un peu dérangeant le
Mais on gardera pour le jus. Hein,
non, mais c'est pas mal. En même temps,
ça s'appelle Wanted.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est le parfum favori de Jesse James.
Tom Ford.
Alors, Soleil Blanc de Tom Ford. Tom Ford, il sort tout le temps. Enfin, quand je dis Tom Ford, c'est la maison Estée Lauder qui est propriétaire de la licence. Ils sortent des parfums quasiment, j'allais dire, chaque semaine. Il y a des choses extrêmement audacieuses, des choses un peu moins. Le Soleil Blanc, il est, c'est vraiment dans la veine des parfums plus faciles de Tom Ford. Donc, c'est un accord fleur blanche. Donc, c'est de l'ylang-ylang, du jasmin, un accord noix de coco. Donc, c'est vraiment...
Presque féminin.
C'est pas le plus osé des parfums de Tom Ford, mais c'est... quelque chose qu'on aime immédiatement, c'est le vrai beau parfum de plage chic.
Ah, très bien.
Voilà. Donc c'est vraiment très très joli.
Ça s'appelle Soleil
Blanc.
Mais
c'est un parfum féminin ou masculin ou mixte ?
C'est mixte.
D'accord.
Alors ils le vendent pour une fois, parce que souvent ils jouent un peu sur l'ambiguïté, ils le vendent plutôt comme un féminin.
Oui.
Mais je trouve que ça va parfaitement.
Il est en bilingue, mais bon, si vous le dites, ça va très bien.
Le dernier Serge Lutens ?
Alors là aussi, Serge Lutens, on l'avait un petit peu perdu parce qu'il s'est enfermé et dans ses eaux, vous savez, il a décliné l'idée de l'eau où on retrouvait pas du tout la patte orientale de Lutens, et dans ses histoires très intimes autour de sa maman, des choses un peu sombres. Moi, je l'avais un peu perdu en route. Là, il lance deux parfums, dont un que j'ai retenu qui s'appelle Baptême du feu. Alors là, on retrouve vraiment le Lutens qu'on aime. C'est-à-dire, l'idée, c'est la fête foraine. Ça rappelle un peu Angel, d'ailleurs. C'est un gourmand, mais qui n'est pas sucré. Donc c'est la fête foraine, le stand de tir, le mélange de brûlé et de pain d'épices.
Gourmand
et pas sucré. L'idée, c'était de faire de quelque chose qui est pas caramel, qui est pas collant. D'accord. Sur la peau. Qui est un peu la tendance du parfum gourmand
par d'aujourd'hui. Un hot dog, c'est gourmand, mais pas sucré.
Non,
c'est le principe de la junk food. Ouais. Quoi qu'avec le ketchup.
Le gourmand, c'est souvent la note barbe à papa, en fait, pour en parfumerie. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose de plus tenu, et c'est vraiment réussi. Donc, ça s'appelle Baptême du feu.
Et donc, là aussi, je pose la même question qu'Emmanuel. Homme, femme, mixte?
Oui, moi, j'aurais tendance à dire homme. Franchement, homme pour celui-là.
Franchement, homme. Ouais.
Baptême du feu, wanted, c'est les martiaux.
Et alors, retour de la vanille aussi à Donf?
Alors, oui. Alors,
ça, c'est dur.
Non, mais non, justement.
Ah bon, moi je trouve que les parfums vanille.
Alors je trouve que c'est une double occasion. D'abord, c'est de parler d'un parfumeur qui s'appelle Fabrice Pellerin, qui est le grand parfumeur du moment. S'il n'était pas aussi timide, on pourrait l'inviter ici, mais il est extrêmement timide.
Attendez, ouais, je ne connais même pas de nom.
Il a signé Wanted. Il signe un parfum chez Aedes de Venustas, qui est une marque de niche new-yorkaise, enfin franco-new-yorkaise. Aedes de Venustas, en fait, ils ont ouvert d'abord une espèce de galerie d'art autour du parfum. Il y a quelques années, et là, du coup, ils ont débouché sur une marque en propre. Et là, ils sortent un parfum qui s'appelle Cierge de Lune. Et l'idée, c'était justement ce que vous disiez, Emmanuel, c'était de pas revenir à la vanille traditionnelle que plein de gens n'aiment pas finalement. Et là, l'idée, c'est de faire une vanille très sombre, une vanille en sang. Et c'est vraiment vraiment intéressant. C'est la vanille la plus bizarre qu'on peut trouver en ce moment. Donc ceux qui adorent la vanille classique, un peu gourmande, un peu vanilline finalement, un peu gâteau, n'aimeront pas celui-là. Mais pour ceux qui, comme Emmanuel,
aristocrate,
c'est vraiment une jolie vanille.
Alors on va pas, parce que tout, c'est tout.
Votre garçon là.
Oui, vous lui faites un peu de média training et puis Cierge de Lune, Aedes de Venustas, c'est ça qu'on prononce. Bon. Et alors celui qu'on n'achète pas?
Ah oui, alors là c'est un peu le raté du moment. Vous savez, la licence Jean-Paul Gaultier a changé de main il y a quelques mois. Est passé chez un groupe qui s'appelle Puig, un groupe catalan. Là, ils nous sortent une espèce de déclinaison. Donc leur idée, c'est de garder deux références dans la marque Jean-Paul Gaultier. Le mâle, qui est le grand succès masculin, et Classique, qui est le grand succès féminin, et de les décliner sous forme de flanqueurs, de déclinaisons. Là, ils sortent deux déclinaisons, l'une inspirée de Popeye, et l'autre de Betty Boop. Alors, je me disais, des icônes comme ça des années 30, je vois pas à qui ça peut parler aujourd'hui. C'est un choix extrêmement bizarre. Donc, ils en ont fait deux eaux un peu d'été, mais je n'ai pas bien compris la démarche. Donc, ils annoncent en septembre deux nouvelles déclinaisons du mâle et de Classique qui s'appellent Essence de Parfum. Donc, on souhaite qu'ils aient un peu plus réussi.
Batman et Catwoman.
Non, parce que là, on peut comprendre le côté un peu décalé de Jean-Paul Gaultier. On se dit, bon, OK, c'est juste le flacon. Mais comment ça sent?
Alors, ils les ont allégés. En fait, c'est les deux icônes de la marque qui sont allégées et rendues un peu plus fraîches. Mais c'est simplement les références, moi, qui me semblent plus que décalées, là, presque un peu.
Donc, la prochaine fois, il sort un parfum avec Disney.
Et puis ça sent ça,
on a l'impression qu'on va tirer sur la corde, à la fin il ne restera plus qu'un fil.
Est-ce que ça va parler aux trentenaires, Betty Boop et Popeye? Je ne suis pas sûr.
En même temps, ils sont très vintage.
Vous allez voir, ça se trouve, on s'est planté, ils ont carrément un an d'avance et ça va cartonner. On en reparle. Merci.
Si on s'est planté.
Beaucoup,
merci à vous.
Lionel. Allez, bougez pas, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et vous savez ce que ça donne quand l'hôpital se fout de la charité? Ça donne Emmanuel Rubin qui parle d'un coiffeur.
C'est juste une information. C'est pour moi, je ne connais pas beaucoup la coiffure, mais vous devez le connaître. C'est juste que c'est vraiment l'un des grands références qu'on appelle un des coiffeurs stars. Il s'appelle Christophe Robin. Il ouvre son nouveau salon de coiffure. Il est très connu parce que c'est d'abord effectivement un des grands coiffeurs, des personnalités, mais surtout parce qu'il a un certain génie sur la couleur. Ouais. C'est un coloriste. Il s'installe rue Bachaumont. La rue Bachaumont, qui devient la rue la plus hallucinante de Paris. D'ailleurs, le Wall Street Journal lui a consacré un article entier pour la citer comme la Smart Set Street de Paris. La Smart Set, c'est l'inverse de la Jet Set. C'est-à-dire que c'est un petit peu une certaine élite du style. Et c'est vrai que dans cette même rue, en quelques saisons, l'hôtel Bachaumont, deux ou trois restaurants pointus, Nose, qu'on invite souvent ici, la boutique justement de parfums de niche, et Christophe Robin vient s'installer dans cette petite rue du quartier Montorgueil.
Où on trouve aussi les éditions Jaloux, qui éditent des magnifiques magazines.
On a été les premiers à s'installer dans le coin. Je l'ai pas dit, hein, c'est vous, mais merci. Et c'est vrai que le salon promet d'être couru de tout Paris, d'autant que c'est un salon simplement ouvert sur rendez-vous.
C'est ça la différence
histoire.
Aussi.
Que sur rendez-vous pour la petite histoire, puisque je travaille. Et que je suis un autochtone de la rue Bachaumont, c'était très intéressant de voir, la boutique n'est pas encore ouverte, mais quelques people débarquent pour passer leur bac de shampoing. Et parmi eux, il y avait un certain Dominique de Villepin. Je les balancerai toutes
Allez,
les semaines.
C'est ça, vous nous donnerez qui fréquente.
Je serai le voici de la coiffure.
De Christophe Robin. Allez, je ne sais pas si lui va fréquenter son salon, c'est le couturier Pierre Cardin. Pierre Cardin, eh ben, ce vénérable homme, il a quand même 94 ans. Et il s'apprête à fêter 70 ans de carrière. Et pour fêter ses 70 ans de carrière, eh ben, il continue. Et donc, il présentera un défilé. Eh oui, le 9 juillet. Donc, dans la foulée, il est vraiment dans le calendrier haute couture, hein, qui va se situer à Paris.
Mais c'est là, hallucinant. C'est...
Lui, ce sera dans son château de Lacoste. Donc, il a acheté. C'est en Provence, dans l'Luberon. Et donc, son dernier grand défilé, on en avait parlé en novembre 2013 chez Maxime, encore chez lui. Il continue à faire des shows à l'étranger, à New York, en Chine récemment. Et donc là, il sera chez lui, au château de Lacoste, et il fera un défilé, Pierre Cardin, le 9 juillet.
Personnage.
C'est incroyable.
C'est vraiment une saga hallucinante. À moi ?
Ouais, à vous.
On connaissait les restaurants éphémères, les pop-up stores. Voilà l'expo éphémère. Celle-là, elle va cartonner, je pense.
C'est toujours éphémère, une expo ?
Ah oui, mais celle-là, c'est plus que de l'éphémère. C'est l'éphémère dans l'éphémère, puisqu'elle dure une journée.
Ah.
Rendez-vous le 12 juillet de 10h à 17h sous la verrière du Grand Palais, puisque Mercedes, à l'occasion de son centenaire, réalise une exposition d'une journée en présentant, je crois, 70 modèles, je ne suis pas sûr du chiffre, qui raconte toute la saga de cette mécanique allemande, les plus beaux modèles de ce qui a fait la légende Mercedes. D'abord, le titre s'appelle « Les belles étoiles Mercedes ». Alors, on aura le droit aux voitures, aux berlines et autres, mais aussi aux Formule 1. Il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui encore, mais très tôt, ils ont joué la compétition sportive. Ça va durer une journée. Alors attention, le 20 juin, c'est-à-dire lundi, la réservation est ouverte. www.mercedes-grandpalais.com. Parce que là, si vous ne passez pas par le site internet, vous ne rentrerez pas. Non, c'est marrant, on va assister, je pense, de plus en plus. Bientôt, les expositions dureront 2 heures.
Et le 30 juin, dans Good Luxe Paris, on recevra justement Mercedes et Alexis Mabille qui travaillent aussi énormément avec Mercedes. Et quand Mercedes se prend pour une marque de mode, c'est exactement ce que vous racontez, ce sera notre sujet. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour toujours plus de Good Luxe. Restez encore un petit peu avec nous. Good Luxe Paris, ça continue dans un instant avec le best-of de la semaine sur BFM Business.